A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Nouvelle émission, nous allons partir en Russie pour évoquer les rapports entre la Russie, l'Empire et la guerre. Mais avant cela, je vous rappelle ou mentionne le nouveau numéro de Conflit, puisque Conflit, ce ne sont pas que des podcasts, c'est aussi un magazine qui paraît tous les 2 mois. Le dossier de notre magazine actuellement en kiosque est consacré à l'Espagne. Il y a aussi d'autres articles, notamment un article sur la stratégie suisse, une grande carte sur la Manche et puis des chroniques habituelles. Vous pouvez retrouver ce numéro en kiosque sur le site internet de Conflit également, revueconflit.com. Et sur le site internet de Conflit, tous les jours, des publications, au moins 2 articles qui traitent de choses d'actualité ou parfois d'analyses un peu moins en prise avec l'actualité. Vous pouvez évidemment vous abonner à Conflit ou bien abonner vos proches. C'est un excellent cadeau à offrir aussi à Noël. Conflit ne vit que par ses abonnés et que par ses ventes en kiosque. Merci donc pour votre soutien et pour votre fidélité. Alors cette semaine, nous allons partir justement vers la Russie. On en parle beaucoup évidemment depuis le mois de février 2022 et l'invasion de l'Ukraine, mais l'occasion est donnée grâce à une publication d'un ouvrage important, je vais y revenir, pour essayer de mettre l'histoire de la Russie en perspective, au-delà simplement de la simple question ukrainienne, et de comprendre comment fonctionne la guerre en Russie, quelle est également la notion d'empire. Mon invité cette semaine, Pierre Gonod, bonjour. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous êtes professeur à Sorbonne Université, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, le PHE. Vous travaillez sur l'histoire de la Russie. Vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment sur Ivan le Terrible, sur l'histoire de la Russie, sur les rapports aussi avec l'Église orthodoxe. Et vous venez de publier aux éditions Talendier, en partenariat avec le ministère des Armées, un ouvrage intitulé « La guerre russe ou le prix de l'Empire » d'Ivan le Terrible à Vladimir Poutine. Un ouvrage donc, qui est livre d'histoire d'Ivan le Terrible jusqu'à aujourd'hui, où vous analysez ces rapports de la guerre et de l'Empire. Et d'ailleurs, vous précisez dans l'introduction que l'ouvrage n'est pas directement issu de la guerre en Ukraine, puisque vous y avez pensé avant, vous avez commencé à y travailler avant, et vous avez signé le contrat d'édition de quelques jours avant. Donc la guerre en Ukraine a donné une perspective supplémentaire, mais ce n'est pas la conséquence directe de la publication de l'ouvrage.
Oui, la guerre en Ukraine a ajouté un dernier chapitre qui s'inscrit dans la logique des précédents, mais effectivement c'était imprévu, et ça montre aussi la nécessité de repenser cette guerre sur le temps long. Alors en remontant à Ivan le Terrible, qui effectivement est un personnage clé puisque c'est le premier tsar, le véritable fondateur de l'Empire, dans la mesure où non seulement il revendique la succession de l'Empire byzantin, un empire orthodoxe, mondial, mais aussi après, puisqu'il y a tout de suite après son couronnement en 1547, en 1552, la conquête de Kazan, premier khanat tatar qui devient russe, et donc l'ouverture vers l'Asie et la succession, on pourrait dire, en pointillé, de Gengis Khan, de cet empire mongol qui avait dominé la Russie par le passé.
Alors la Russie est un cas intéressant de rapport à l'empire parce que effectivement c'est un empire, donc il y a une partie russe, population russe, et puis beaucoup de peuples non russes. Et on voit aussi différence avec l'empire français, puisque la France a eu un empire au moins jusqu'au XXe siècle, où on a une discontinuité territoriale en France, alors qu'en Russie il y a toujours eu la volonté d'unir les territoires et d'avoir cette continuité territoriale de Vladivostok jusqu'à Kiev à une certaine époque.
Oui, bien c'est la question des frontières naturelles aussi, une question vieille comme le monde, mais en fait en Russie il n'y en a pas. La limite c'est jusqu'où va justement, ou jusqu'où vont les armées de l'Empire, en traversant néanmoins des zones géographiques très différentes, des zones peuplées aussi de populations différentes, chrétiennes, pas chrétiennes, européennes, asiatiques, et avec aussi donc l'Asie centrale, l'Extrême-Orient, le Caucase, qui sont des régions qui en fait sont en continuité territoriale, mais avec un relief et avec une population tout à fait différente.
Est-ce qu'il y a une pensée de l'empire, une pensée de la puissance que l'on retrouve aujourd'hui chez Vladimir Poutine, mais qui alimente peut-être l'histoire russe?
Tout à fait, oui, ça remonte à Ivan le Terrible et à ses successeurs, donc à cette idée d'une monarchie universelle. Et cette idée de puissance Dierjava en russe, elle est très importante puisque le souverain est autocrate, samodierge, est celui qui tient tout le pouvoir, et il n'y a pas de partage des pouvoirs. Donc évidemment, à l'époque soviétique, c'était sur le papier autrement, mais finalement, on a retrouvé un monarque rouge avec Staline. Et de nos jours, on a un monarque à nouveau qui est censé tout diriger, même s'il n'est pas infaillible, bien sûr.
Ce qui surprend en Russie, c'est la continuité historique. On a par exemple dans les rues de Moscou des personnes habillées en Staline qui font parfois la quête, qui jouent de la musique. Il n'y a pas de période noire en quelque sorte. Il y a une continuité, les tsars, l'époque soviétique, aujourd'hui.
Oui, ben, il y a cette idée qu'on enseigne toujours l'histoire comme un roman national, alors que chez nous, on est plutôt en train de le déconstruire et d'essayer de trouver des périodes sur lesquelles il faudrait se repentir ou en tout cas réexaminer ce narratif, alors que là, au contraire, on y tient absolument. Et c'est pour ça aussi qu'on commence à la Rousse de Kiev, donc cette période ancienne où l'Ukraine actuelle faisait partie d'un même ensemble avec la Biélorussie que une partie de la Russie, une toute petite partie de la Russie, jusqu'à nos jours. Et donc, effectivement, du coup, on ne supporte pas la rupture de cette continuité territoriale et historique.
Vous dites d'ailleurs dans votre introduction, vous vous placez côté russe pour comprendre, c'est-à-dire comment la Russie perçoit son espace, son empire, son histoire, pour comprendre justement les politiques qui sont menées, notamment dans le cas de la guerre en Ukraine. Si on n'a pas à l'esprit que pour une partie de la Russie, effectivement, c'est un même ensemble historique, on ne comprend pas la dynamique de cette guerre.
Oui, c'est-à-dire ça ressemble à ce qu'était chez nous l'enseignement avant la guerre de 14, ou même un peu après d'ailleurs, où il y avait donc ces Gaulois, ces Francs, et puis la France, et tout ça faisait un tout. Et effectivement, Charlemagne était français. Mais bon, là, les Allemands aussi, évidemment, considéraient Karl der Grosse comme un monarque allemand. Donc c'est la même chose dans l'héritage de la Rousse de Kiev. Il est disputé entre les Russes, les Ukrainiens et les Biélorusses qui en sont également dépositaires. Mais chacun le voit à sa façon.
Comment la Russie dans cet empire voit le rapport entre population russe et population non russe? On a des peuples différents, on a des religions différentes. Comment est pensé le fait que autant de peuples différents puissent vivre dans un même ensemble politique?
Alors, il y a eu l'époque où il y avait la domination du grand frère, dont on a beaucoup parlé, le grand frère russe, qui rassemblait les autres de manière plus ou moins, disons, violente ou non violente. Mais au XVIIIe déjà, on commence à dire que la Russie a rassemblé un septième des terres immergées pacifiquement, ce qui est assez étonnant. C'est Karamzine, grand historien, historiographe officiel de l'Empire russe, qui le dit. Et qui ajoute, la Russie a introduit dans le système mondial des terres inconnues, bon, un peu comme le font d'autres puissances coloniales, mais sans la même violence, et de même, elle leur a fait connaître la vraie religion sans les forcer. Et effectivement, de ce point de vue-là, très longtemps, les Russes ne cherchent pas à convertir. Ils admettent la juxtaposition de croyances différentes. C'est seulement à la fin 19e qu'il y a des missionnaires en Sibérie et dans ces territoires aussi limitrophes de la Chine, à l'image de ce que faisaient les Occidentaux.
Oui, c'est-à-dire que la Sibérie ou l'Asie centrale, ce serait un peu l'Amérique latine de la Russie, en quelque sorte.
C'est ça, l'Amérique latine, ça serait aussi les Antilles, on pourrait dire, et effectivement, il y a, du point de vue de l'exploitation des terres, une forme de colonialisme, et la plus évidente, c'est le coton. Quand on introduit le coton en Asie centrale, c'est d'abord parce que la guerre de sécession a lieu aux États-Unis, et donc il y a une pénurie de coton. Et on va ruiner absolument le système écologique local. Ça va être encore plus aggravé avec les Soviétiques qui vont intensifier cette culture. Mais c'est quelque chose qui était pour le bénéfice, on va dire, de la puissance dominante.
Oui, c'est la mer d'Aral qui était complètement
Asséchée.
asséchée. Mais si on fait du coton dans les zones où il fait très chaud et très peu d'eau, forcément,
Et qu'on
ça peut
multiplie les
attirer les animaux.
canaux, voilà.
Vous évoquiez la question de l'évangélisation, c'est aussi un point important, la présence de l'Église orthodoxe. côté catholique, en Europe, on a une distinction entre le pape et l'empereur. Côté orthodoxe, c'est assez différent. Quel est ce rapport religieux? Pas vraiment la même notion de laïcité, tant qu'on emploie chez nous. C'est pas vraiment une notion orthodoxe. Comment se positionne l'Église orthodoxe et par rapport au pouvoir politique?
Alors, elle a subi des persécutions à l'époque soviétique, mais au fond, on est toujours dans ce modèle qu'on appelait dans l'Empire byzantin la symphonie, c'est-à-dire l'harmonie entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, qui peut par moments avoir, évidemment, il peut y avoir des conflits, mais au fond, ils s'équilibrent l'un l'autre. Et de nos jours, où on a redécouvert l'orthodoxie de manière assez ostentatoire dans les cercles du pouvoir, on ajoute bien qu'il y a plusieurs religions en Russie, y compris l'islam qui est tout à fait respecté et on fait très attention vis-à-vis de l'islam, mais l'Église orthodoxe a retrouvé sa place auprès du pouvoir et s'en trouve très bien. Alors le problème, c'est évidemment dans les territoires comme l'Ukraine où elle avait des paroisses, où elle avait une forte influence et où maintenant elle apparaît comme l'ennemi.
Oui, parce que l'Église orthodoxe ukrainienne était rattachée au patriarcat de Moscou et depuis la guerre, une partie s'en est détachée pour être autocéphale, donc être autonome.
C'est-à-dire, ça s'est fait depuis 91. Déjà, à partir du moment où il y a deux États distincts, on commence à se dire, eh bien, pourquoi on n'aurait pas notre Église orthodoxe ukrainienne, sans compter qu'il y a en plus les uniates, ce qu'on appelle aussi gréco-catholiques, qui eux ne sont pas orthodoxes, mais qui avaient été rattachés à l'Église orthodoxe. Donc, l'Ukraine a toujours été un paysage contrasté. Mais il y avait encore une forte proportion de fidèles de l'Église orthodoxe, du patriarcat de Moscou, en Ukraine. Et là, c'est en train de fondre, évidemment, sauf dans les régions occupées, où au contraire, c'est l'inverse qui se produit. Et cette église autocéphale ukrainienne, qui a reçu l'appui du patriarcat de Constantinople, alors ça crée des gros problèmes entre orthodoxes, entre grecs et russes, elle prend son élan, là, actuellement, très nettement.
Oui, puisque dans le système orthodoxe, le patriarche de Constantinople est censé avoir la primauté historique, mais il a peu de fidèles. Donc évidemment, il y a une tension, rivalité entre Moscou et Constantinople.
Voilà, il se déclare œcuménique, c'est le titre qu'il adopte et qui lui permet effectivement d'avoir une certaine position d'arbitre, on pourrait dire, dans certains cas. Mais au contraire, le patriarche de Moscou dit, c'est nous qui avons les grands effectifs d'orthodoxes de par le monde, en Russie même et en dehors. L'émigration russe, ils ont essayé par tous les moyens et réussi souvent à récupérer ces fidèles de l'émigration russe. Et donc, que vient faire, en quoi le patriarcat de Constantinople interfère dans les affaires de l'Église orthodoxe russe? Donc là, maintenant, c'est une situation de conflit.
Est-ce qu'on a dans l'Église orthodoxe des notions comme croisade, guerre sainte, des choses qu'on retrouve, non?
Alors, a priori, non. C'est-à-dire qu'ils ont toujours dit que nous, contrairement aux Occidentaux, nous n'avons pas fait de croisade, nous n'avons pas massacré les Indiens. C'était donc cette thèse du XVIIIe siècle d'une Église orthodoxe bienveillante et non intrusive. Et puis, bien là, on voit bien que dans les propos du patriarche actuellement, depuis 2022, il y a des éléments de guerre sainte, tout à fait, contre non seulement les Ukrainiens nazis, mais aussi le mode occidental en général, le mode de vie, la gay pride. Enfin, tout ça vient dans un amalgame assez surprenant pour dire que nous défendons les vérités de la foi, mais aussi de la civilisation.
Alors, dans votre ouvrage, vous consacrez évidemment une partie importante à l'étude de l'armée, la manière dont l'armée participe évidemment à l'expansion de l'Empire. On évoquait les différents peuples, différentes religions. Comment ceux-ci sont-ils intégrés dans l'Empire? Alors, on a vu par exemple dans la guerre en Ukraine où il y avait des régiments tchétchènes qui venaient, qui ont d'ailleurs mis ça en scène. C'était quand même très, très impressionnant à voir. C'était fait pour d'ailleurs, c'était fait pour impressionner. Est-ce qu'on a donc des régiments qui sont intégrés à l'armée officielle, l'armée du Tsar, l'armée rouge, ou est-ce qu'on a des régiments à part, style légion étrangère, qui seraient un peu autonomes ou mercenaires, par exemple?
Alors, pendant l'Ancien Régime, on a assez longtemps des amalgames de troupes diverses. Donc, il y a d'abord deux types d'armées, on peut dire, dans les troupes russes proprement dites. Une armée destinée à la steppe, qui est une armée qui est en miroir aux populations des steppes, donc des cavaliers, cavalerie légère. Et puis, évidemment, après, on profite de l'avantage de l'artillerie, en particulier pour conquérir l'Asie centrale, et des fusils à répétition par rapport aux mousquets que possèdent les indigènes. Donc ça, c'est une première armée. Et puis, à l'ouest, il faut une armée moderne, avec des fantassins en grand nombre, avec une cavalerie lourde, avec une artillerie lourde, une flotte, ce qui coûte très cher. Et le problème qui va se poser à la Russie, c'est qu'à partir des guerres napoléoniennes, on va dire, eh bien, il faut 1 million d'hommes à peu près au minimum. Et donc, pour tenir toute la frontière, pour garnir, on va dire, toutes ces frontières, depuis les frontières de la Finlande jusqu'à la mer Noire, ce qui fait que ça impose à la population quand même une obligation de service lourde. Alors, c'est d'abord les serfs qu'on enrôle et qui sont sous les armes tant qu'ils sont valides, un vieux système, mais un système qui marche. Puis à partir de 1874, donc très tardivement, on passe à la conscription. Et cela dit, les populations d'Asie centrale ou des régions vraiment lointaines, on ne les enrôle pas dans les mêmes régiments. Et quand en 1916, on a vraiment besoin beaucoup d'hommes par centaines de milliers et qu'on essaie de les enrôler, là, il y a des révoltes et ça commence un peu la révolution, on pourrait dire, aux marges de l'Empire avec ces révoltes de gens qui ne veulent pas être incorporés.
Dans un entretien qu'il a accordé à The Economist, le général ukrainien qui dirige l'ensemble des opérations fait un parallèle entre son armée et l'armée russe en disant que l'armée russe elle a perdu à peu près 150 000 hommes, bon, chiffre difficilement vérifiable, mais il dit, en tout cas, une remarque intéressante, en disant pour les Russes, ça ne compte pas de perdre beaucoup de personnes, ils sont habitués à jouer dans la profondeur démographique. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, il y a quand même eu beaucoup de morts, d'ailleurs pas que de la faute des Allemands, parce qu'ils ont aussi causé eux-mêmes beaucoup leurs pertes. Enfin, il y a cette idée du moins d'un réservoir inépuisable. La force russe, c'est à la fois l'espace et la profondeur démographique.
Alors c'est tout le problème actuel, c'est-à-dire que la population russe diminue. Et ça, Vladimir Poutine et son entourage en sont conscients. Ils ont essayé de prendre des mesures d'incitation à la natalité, qui ont donné des résultats, mais quand même assez maigres, on va dire. Bon, évidemment, je parle des statistiques officielles, donc c'est peut-être même encore moins. Et c'est pareil pour les pertes. Hein. Les statistiques, on n'en a pas côté russe, on n'en a pas côté ukrainien, donc on extrapole, on essaie de savoir. Actuellement, ils ne peuvent pas se permettre de perdre autant de millions d'hommes qu'ils en ont perdu par le passé. Donc là, il y a un seuil. Alors évidemment, comme on le dit, et c'est vérifié, c'est plutôt dans les populations minoritaires, dans les populations très pauvres, qu'on recrute et qu'on envoie au front. Il y a une bonne partie de gens qui sont des volontaires, c'est-à-dire on leur offre des soldes et des conditions attrayantes, mais ça n'a qu'un temps. Donc ça, on ne sait pas quand et comment, mais ça pourrait être un des talons d'Achille. Actuellement, on ne peut pas mobiliser 5 millions d'hommes comme ça et les envoyer n'importe où.
Alors, on évoquait la Deuxième Guerre mondiale, un des prestiges de l'Union soviétique, ça a été le combat dans la Deuxième Guerre mondiale contre l'Allemagne nazie, où il est vrai que l'armée rouge a joué sa part, enfin une part quand même un peu ambiguë, parce que l'URSS a été alliée avec l'Allemagne nazie au moins jusqu'à l'opération Barbarossa, et dans la libération des territoires d'Europe de l'Est, c'était une libération un peu occupation aussi.
Tout à fait. Et n'oublions pas, donc il y avait le pacte avec les Allemands qui leur a permis de récupérer pratiquement les terres de l'Empire russe qu'ils avaient perdues à la fin de la Première Guerre mondiale, et de les garder ensuite, mais avec entre-temps, il a fallu battre les Allemands, ce qui n'était pas une mince affaire. Et d'autre part, il y avait un pacte de non-agression avec les Japonais aussi. Et ce pacte a été respecté jusqu'à ce que, à la demande des Américains, les Russes, enfin les Soviétiques, le rompent, et ils en ont eu quelques avantages, puisqu'ils ont récupéré les îles Kouriles, et les Japonais considèrent encore que ces îles sont à eux, et qu'elles ont été prises de manière assez déloyale.
Alors justement, vous évoquez le Japon, on va se tourner vers l'extrême-orient russe parce que il y a cette tension aussi de la Russie entre l'Europe et l'Asie et une conquête importante au XIXe siècle de cet espace sibérien, conquête et découverte d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des scientifiques qui sont envoyés pour découvrir cette région, la cartographier. Il y a un très beau film d'ailleurs d'Ersu Usala, je mentionne pour nos auditeurs, qui est...
De Mikhalkov,
oui. Exactement, alors d'ailleurs le personnage principal a mal fini puisque comme il y a pris, il se retrouve en prison à l'époque soviétique, mais en tout cas c'est un très beau film pour comprendre la découverte de la steppe. Et alors justement les Russes vont vers cette découverte, cette intégration de l'espace extrêmement oriental.
Oui, c'est-à-dire que dès le XVIIe siècle ils s'enfoncent dans un espace qui résiste peu parce qu'au nord de l'Asie, au nord de l'amour, il n'y a pas d'état véritable qui les arrête. Ils arrivent donc au Pacifique dès 1647 et ils vont même passer en Alaska. Hein. Donc pendant plus d'un siècle, jusqu'en 1867, ils sont les maîtres de l'Alaska. Alors par contre, évidemment, la déception, c'est qu'il n'y a pas de port véritable. Il y a Petropavlovsk-Kamtchatski, mais c'est vraiment en plein nord. Donc ils vont chercher à chaque fois un port en eau libre permettant d'asseoir une flotte du Pacifique. Alors d'abord, l'estuaire de l'amour, ils ont beaucoup rêvé à cet endroit-là, mais ça s'avère pas navigable. Donc il faut descendre beaucoup plus au sud pour arriver à Vladivostok. Et ça, c'est un territoire qui faisait partie de l'Empire chinois, qui n'était pas vraiment peuplé de Han, donc ça c'est une petite différence, mais qui d'une certaine façon devient une sorte de main qui encadre, on sert la Mandchourie. Et là, évidemment, il y a un rêve nouveau d'une Russie d'Asie encore plus vaste qui ne sera arrêtée que par les Chinois en 1905, les Japonais, pardon, en 1905.
Donc, Vladivostok a été fondé en quelle année?
C'est donc l'annexion de cette partie de territoire qu'on appelle la province maritime entre l'Oussouri et l'Amour, c'est 1860. C'est un traité imposé à la Chine, traité inégal, comme disent les Chinois. Et donc, à partir de 1860, il y a au départ 2 000-3 000 personnes à Vladivostok, et ça va devenir le grand port maritime militaire de l'Union soviétique et ensuite, enfin de l'Empire russe, de l'Union soviétique et actuellement de la Russie, jusqu'à nos jours.
Ce qui veut dire aussi qu'il faut relier cet espace oriental au reste de la Russie, notamment à Moscou. Donc là, ça va être l'enjeu des chemins de fer, je suppose, même si maintenant on peut utiliser l'avion, mais enfin pour le commerce et pour les marchandises,
Et les soldats,
les
pour
soldats,
acheminer
oui.
les soldats. Oui. Donc le transsibérien, financé par des capitaux en grande partie français, belges et autres, avec ses emprunts russes, qui est construit en un temps record entre 1891 et 1901, est l'outil. Mais il remonte et il contourne donc cette Mandchourie, ce qui fait qu'après, il y a cette idée, si on passait à travers, avec un autre chemin de fer, le chemin de fer de l'Est chinois, qu'on va extorquer en obtenant des concessions, avec Port Arthur qui, donc là, arrive dans la baie du Liaotung, qui est vraiment déjà au cœur de l'espace chinois. Donc, il y a un quadrillage de cet espace. Et n'oublions pas non plus que Vladivostok permet de toucher à la Corée. On arrive, c'est la Corée du Nord maintenant, mais les Russes ont aussi l'ambition, en 1905, par là, de non seulement investir cette Mandchourie, ils ont commencé le travail, mais pourquoi pas la Corée? C'est ça, les Japonais ne peuvent pas le supporter. Donc, ils sont allés trop loin de ce point de vue-là.
D'où la guerre et la défaite de 1905 a eu un grand retentissement parce que c'était la première fois qu'une puissance occidentale était vaincue par une puissance asiatique.
Tout à fait. Alors, certes, une puissance asiatique entraînée par les Prussiens pour l'armée de terre et ayant bien regardé les Anglais pour la flotte et les Américains. Mais effectivement, c'est une puissance asiatique qui bat l'ours russe, en plus cet ours réputé quasi invincible. Il avait été vaincu en Crimée déjà, mais là c'est un deuxième revers. Et là on voit tout de suite que un revers de ce type peut entraîner la fin de l'Empire. C'est ça aussi. L'Empire doit s'étendre ou doit être invaincu. Et en cas de défaite même très périphérique, on est très loin hein, des bases de l'Empire, eh bien il y a une révolution déjà en 1905.
Et effectivement, il y a aussi cette peur de l'éclatement de l'Empire, alors qui a été connu en 1991, notamment avec les pertes des territoires en Asie centrale, qui n'avaient jamais été véritablement indépendants, enfin, sauf au XVIIIe, mais c'était pas d'États en tant que tels. Donc là, on crée des États sur une structure impériale qui a duré près de 3 siècles.
Alors, il y avait quelques khanats au milieu de Khiva, de Boukhara, qui étaient anciennement, qui avaient existé depuis longtemps, mais la Russie leur avait imposé un protectorat, puis ils les avaient transformés donc en république soviétique. Et effectivement, cet espace riche en ressources, c'est ça aussi, là, en ressources naturelles, du gaz en particulier, tout d'un coup accède à l'indépendance. Et là, on l'a vu encore il y a quelques jours, je crois hier ou avant-hier, Sergueï Lavrov qui dit, ne vous imaginez pas que vous pouvez nous évincer d'Asie centrale comme si la Russie avait encore des droits, hein, au fond. Et le fait que le président kazakh ait parlé en kazakh lors d'une réunion avec Vladimir Poutine a été quand même vu comme une sorte d'offense.
Alors, on évoquait la descente vers Vladivostok et les territoires pris aux Chinois. Aujourd'hui, on mentionne souvent les liens d'amitié, mais enfin, en tout cas les liens d'entente entre la Chine et la Russie. les deux pays ont été adversaires, et même adversaires rudes. Donc il y a eu ces traités inégaux, enfin, vus ainsi côté chinois, affrontements militaires aussi pendant l'époque de la guerre froide, dans les années 1960. Donc la Chine n'est pas un voisin de tout repos pour la Russie.
Ah ben, parmi les scénarios de fin de l'URSS qui ne se sont pas réalisés, il y avait un dissident soviétique, Andrei Amalric, qui avait dit, eh bien, l'URSS n'ira pas jusqu'en 1984, c'était le pari un peu qu'il avait pris, parce qu'il y aura une guerre soviéto-chinoise et que là, on va la perdre vu qu'ils vont nous battre sur notre terrain, celui du nombre. Ils vont envoyer autant de divisions qu'il faudra, même si on est même plus, mieux armé qu'eux, on sera submergé. Alors, ça ne s'est pas produit, évidemment, mais il y a cette peur, effectivement, de la déferlante chinoise en termes de démographie. Alors maintenant, on dit la Chine a vieilli, et c'est vrai, mais on le sent quand même, la Sibérie est toujours peu peuplée, et les Chinois sont très intéressés par ces ressources naturelles, par les minéraux en particulier. Et là, en 2022, juste avant la guerre, Poutine était allé signer avec... Si un accord, et les Chinois, les entreprises chinoises, maintenant sont très largement implantées dans cette Sibérie, en particulier pour exploiter ses ressources.
Parce que la Chine vieillit, mais la Russie aussi vieillit et
Tout
a
à
beaucoup
fait.
moins d'enfants. Donc c'est vrai que dans la course démographique, c'est la Chine qui gagne pour l'instant.
Pour l'instant, ça, il n'y a absolument aucun problème. Et effectivement, du point de vue des liaisons et des rapports, c'est plus rapide d'aller de Pékin à Vladivostok que depuis Moscou. D'autre part, même avec l'Asie centrale, hein, il y a ces routes de la soie, ces initiatives chinoises qui pourraient aboutir à des ententes un peu différentes.
Est-ce qu'il y a dans la pratique militaire russe une continuité, ou non d'ailleurs, enfin, c'est une question ouverte, entre l'armée telle qu'elle est organisée à l'époque soviétique et aujourd'hui?
Alors, à l'époque soviétique, la grande innovation, c'était que on avait d'abord supprimé les officiers et les grades. Les officiers étaient censés être élus par les soldats. Bon, ce système n'a pas duré très longtemps, mais les officiers étaient quand même sous le contrôle permanent des commissaires politiques. Et c'était un contrôle extrêmement sévère. Et les purges qu'a imposées Staline ont montré que les militaires ne commandent pas. Il n'y a pas de Bonaparte russe, on l'a dit plusieurs fois, même avant la fin de l'Ancien Régime et encore plus sous le régime soviétique. Alors maintenant, on peut dire que l'armée est quand même à son mot à dire, mais elle obéit toujours aux politiques. Et d'autre part, bon, ben, le ministre de la Défense n'est pas un militaire. Il y a eu Joukov quelque temps, après, enfin sous Khrouchtchev, pas sous Staline. Mais très vite, on l'a débarqué, là aussi. Donc on voit très bien que l'armée a un rôle, malgré tout, auxiliaire, même si elle représente une force monumentale. Et on n'aime pas trop que quelqu'un, une tête, sorte et s'impose. Ça pourrait gêner le politique.
Vous avez cité Joukov, lui il a quand même une question un peu particulière, c'est le vainqueur de Stalingrad, il a pas fait, Staline ne craignait pas qu'il lui fasse de l'ombre.
Ah, tout à fait. D'ailleurs, dès 1947, il lui a imposé une véritable humiliation. Alors, on avait tout préparé, comme d'habitude, c'est-à-dire que Abakoumov, qui était le chef des services secrets de l'époque, avait réuni un dossier. Alors, c'était assez facile, les pillages, le butin accumulé. Eh bien, Joukov aussi s'était servi, comme beaucoup d'autres, hein. Alors, en 1947, quand même, les autres généraux ont tenu bon, c'est-à-dire n'ont pas voulu laisser tomber tout à fait Joukov, mais il a subi d'une part des rétrogradations. On l'a envoyé à Odessa, puis dans l'Oural. Hein, il n'était plus du tout le grand chef, en particulier des troupes d'occupation en Europe de l'Est. Et d'autre part, c'est une sorte de communiqué disant, ce n'est pas lui qui a gagné la bataille de Stalingrad, finalement c'est Rokossovski, à Berlin il n'était pas tout seul, donc on a diminué autant que possible son rôle. Alors au moment en 1953 où Staline meurt, on a besoin de lui, en particulier la petite bande qui veut éliminer Beria, il n'y a pas que Khrouchtchev, mais il y a Khrouchtchev évidemment, donc c'est lui qui réussit l'arrestation de Beria et qui à ce moment-là devient... adjoint au ministre de la guerre, puis ministre de la guerre, mais très vite, on trouve qu'il prend trop de place et donc on le met à la retraite, hein, en 57. Donc finalement, sa fin de carrière est assez triste.
Bon, il n'a pas été exécuté, c'est déjà.
Non, on exécutait un peu moins quand même après Staline, mais on a quand même évité qu'il prenne trop de place. Et il faut dire qu'à l'époque, bon, on avait De Gaulle en France, on avait Eisenhower, donc on veut pas de ça en Russie.
Et en 1991, lors du putsch, il y a tentative de coup d'État
Oui.
militaire également. Enfin, là aussi, l'armée a le gouvernement, enfin, le pouvoir russe a réussi à contenir l'armée.
Alors, le coup d'État, c'est une partie du Politburo qui s'oppose à Gorbatchev. Donc, c'est là encore au sein du Politburo. Alors, on met des soldats dans la rue, mais ils ne bougent pas. Moi, j'y étais ces jours-là. On voyait une colonne de soldats qui étaient là, l'air un peu perdu, n'ayant pas vraiment de consignes. Alors, Yeltsin a réagi, et effectivement, finalement, ce coup d'État a fait pchit. Mais ce qui est intéressant, c'est par exemple le général Lebed, qui était un des hommes qui s'était fait remarquer en Afghanistan, qui va sous Yeltsin monter un petit peu parce que c'est lui qui va négocier la première paix avec les Tchétchènes et qui après se fait élire. Alors il est aussi très actif en Moldavie où il soutient les sécessionnistes pro-russes, donc la Transnistrie. Et puis il est mort dans un accident d'avion. Et là aussi, alors évidemment, on peut toujours ajouter des paranoïas à la paranoïa, mais c'est bien commode quand même de se débarrasser de lui comme ça.
Oui, parce qu'on l'a un peu oublié, mais enfin, du moins, dans les médias français, Liebed, on lui préconisait un grand avenir. Je ne sais pas
Ah,
s'il était en
il a
Russie,
été
mais.
candidat à l'élection présidentielle et il avait fait 16%. Donc Yeltsin avait besoin de son ralliement au second tour.
Effectivement, il est mort d'un
Rapidement.
accident, rapidement. Ce qui fait d'ailleurs aussi penser un peu à Prigojine et Wagner. C'est un peu le. Même si là, on n'est pas vraiment dans l'armée, ces groupes paramilitaires, mais enfin, il y a un peu le même rapport aussi. Hein.
Ah oui, il y a des gens qui sont liquidés. Il y a aussi donc ces espions qui sont passés à l'ouest comme Skripal et d'autres qui vont avoir des ennuis avec des empoisonnements, etc. Donc là, la guerre se prolonge aussi comme ça, hein. On élimine, on fait des opérations qu'on appellerait de services secrets.
Alors, dans un autre aspect de l'Empire russe, c'est cette marche vers les mers chaudes. On évoquait l'Extrême-Orient tout à l'heure. Là aussi, c'est une constante d'aller vers la Méditerranée. Il y a une tentative pour accéder à Constantinople au XIXe siècle, ça a échoué. Mais d'ailleurs, on voit bien d'ailleurs la guerre en Ukraine aujourd'hui, la Russie a réussi à faire un continuum entre la Crimée et son territoire et à mettre le pied, de remettre le pied sur la mer Noire.
Alors la mer Noire, effectivement, les intéresse. Catherine II avait ce qu'on appelle un projet grec qui consistait à essayer de libérer tout ou partie des îles grecques avec l'appui d'une flotte russe. Mais alors la flotte russe de l'époque est passée par Gibraltar avec l'accord des Anglais, donc elle n'a pas forcé les détroits. Les détroits, c'est un verrou. Et du temps de l'Empire ottoman, eh bien, au fond, la plupart des grandes puissances préfèrent encore cet Empire ottoman malade maître des détroits que les Russes. Et quand en 1915, les Russes déclarent Constantinople but de guerre pendant la Première Guerre mondiale, bon, les Anglais acceptent, mais du bout des lèvres, hein, vraiment, et on sent bien que ce n'était pas leur projet. Et ensuite, les Russes vont franchir quelquefois ces détroits, mais toujours dans le cadre d'alliances. Alors ça, c'est après, c'est la question, est-ce qu'ils sont tout seuls dans leur projet? Auquel cas, il y a toujours quand même quelque chose qui essaie de les contenir, ou est-ce qu'ils sont intégrés à une coalition comme contre Napoléon, ou à ce moment-là, ça peut arriver que la Méditerranée s'ouvre, mais même à ce moment-là, en 1800, on est bien content que les Russes repartent avec leur flotte dans la mer Noire.
Alors, je t'ai abordé une dernière question, parce qu'on arrive au terme de notre émission, mais justement, ces rapports entre la France et la Russie, on a finalement été assez souvent alliés, même d'ailleurs à l'époque de Napoléon, même si après les alliances se sont retournées, mais la Russie a été pour la France l'allié commode, un allié de revers, en disant par rapport à l'Allemagne, qui était l'adversaire des uns et des autres.
Oui, c'est-à-dire que la Russie a été longtemps dans une alliance continentale avec l'Autriche depuis 1726, avec la Prusse à plus ou moins, elle a aussi battu la Prusse, les Russes sont les premiers à avoir battu Frédéric II, à avoir brièvement occupé Berlin, donc évidemment ça s'est resté dans les mémoires. Et toute la question, c'est quand la Russie domine cette alliance triangulaire, Russie, Autriche et Prusse ou Allemagne, ou quand elle est dominée comme sous Bismarck. Et effectivement, Alexandre III, qui était en plus marié à une Danoise, qui n'aimait pas évidemment les Prussiens, a renversé les alliances parce que, il trouvait que dans cette Alliance des Trois Empereurs, il était un peu le partenaire mineur. Donc, alliance de revers avec les Français et alliance un peu aberrante ou en tout cas surprenante parce que c'est la monarchie absolue avec la République. Alors qu'au départ, l'alliance des Trois Empereurs était très naturelle. Donc, c'est des alliances d'opportunité qui ont eu après des conséquences, évidemment, à l'échelle mondiale.
Et on le voit même pendant la Deuxième Guerre mondiale où il y a une disparité idéologique entre le bloc démocratique et l'Union soviétique, et pourtant, face à l'ennemi commun, là aussi, on tisse alliance.
Voilà, et on change les discours presque du jour au lendemain, c'est ce que raconte Orwell dans 1984. On était alliés des Allemands, on était ennemis du capitalisme et des financiers de Wall Street et tout ça, puis du jour au lendemain, on est hostile aux nazis, et ce qu'on avait été avant, donc on change à vue, et on s'entend la main à Churchill, à Roosevelt, et tout est à nouveau très bien jusqu'en 1945 où la guerre froide commence très vite.
Et donc finalement, on va dire que les intérêts de l'Empire ou les intérêts de l'État ont pris le, enfin, prennent le dessus sur les questions idéologiques qui sont finalement assez malléables.
Ah oui, on peut très bien les arranger et à vue d'œil.
Merci beaucoup, Pierre Gonod, d'être venu à à notre micro. Donc le titre de votre ouvrage, La guerre russe ou le prix de l'Empire, d'Ivan le Terrible à Poutine, qui est paru aux éditions Talendier, comme chaque semaine. Les références sont à retrouver sur notre site internet. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.